Ésotérisme expérimental. Avec Richard Glenn. Bonjour. Septième rencontre d'ésotérisme expérimental à cette station de radio, CJLV, 1570 AM à Radio Mieux-Être. Oui, on fait une démarche depuis déjà 7 semaines. La première, c'était simplement exposer ce qu'était l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn, qui autrefois était sur le câble et maintenant sur Internet depuis avril 1997, donc rempli d'informations, de matériel, vidéo, audio. Et maintenant, ici, à cette station de radio, où nous faisons une démarche très précise, vous savez, en nous suivant de semaine en semaine ou en regardant, en écoutant les podcasts des semaines passées, vous allez comprendre qu'il y a comme une étape, semaine en semaine, qu'on franchit. Vous rappelez qu'à la deuxième rencontre, j'essayais de définir ce qu'était l'ésotérisme, ésotérisme qui veut dire de l'intérieur. L'exotérisme, c'est l'extérieur. Et je vous proposais la démarche isotérique, comme isotherme, isobare, qui veut dire semblable, que les informations qu'on donne puissent servir à tout le monde de manière planétaire, universelle, sans que ce soit d'une école, d'une église, d'une pensée, mais que ce soit utile à tous, parce que ce sont les mêmes données de base applicables dans tous les domaines. À la troisième rencontre, on parlait de métapsychologie, au-delà de la psychologie conventionnelle, avec Alain Niala, philosophe praticien, qui nous permettait de mieux connaître la devise de « le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». On a vu que par la métapsychologie, on traite par différents outils qu'on croyait être des sciences occultes, autrefois bons pour les devins, les cartes comme le tarot, les lignes de la main, la chiromancie, chirologie, l'astrologie, pour nous permettre de voir le futur aussi bien que le passé. On allait même dans les vies antérieures. À la quatrième rencontre, je vous ai proposé l'école Jedi, les enseignements de l'école Jedi, oui, qui est en rapport avec la guerre des étoiles, le Star Wars, avec comme invité M. Jean-François Poulain, professeur d'arts martiaux de autodéfense pour des femmes dans la région du Grand Montréal. Et on comprenait que nous pouvons avoir des pouvoirs, développer des pouvoirs personnels envers soi-même ou face aux autres, mais qu'il faut toujours avoir un contrôle sur ces pouvoirs. On se souvient dans les Jedi et leur pouvoir de la pensée, de l'énergie, de la force. La cinquième rencontre, il y a 2 semaines, médecine quantique avec le physicien européen Nouridine Yayabé, physicien, qui nous a parlé de le code secret des miracles de Jésus, et Denis Harting, qui les applique, ces techniques, qui lui viennent, lui, de Russie, par les enseignements de Grigori Petrovitch Grobovoy. Et la semaine dernière, dans la sixième rencontre, avec Claire Garand, on a parlé de « Tout est vibration ». On a parlé, évidemment, de chant, de musique, des longueurs d'onde comme le 440 Hz, qu'on devrait descendre à 432 Hz pour être conforme aux techniques du nombre d'or qui sont plus en harmonie avec la vie. Vous savez que les Nations Unies ont proclamé l'année 2015 comme étant l'année consacrée à la lumière, l'année internationale de la lumière pour 2015. La lumière, c'est en fait une onde électromagnétique qui se dégage en différentes couleurs du spectre. Eh oui, on est encore dans toutes les vibrations. Lumière ou son? D'après les travaux de George Lakowski, chaque cellule vivante a sa fréquence. Une vibration particulière qui permet peut-être de la soigner pour la rétablir si elle a perdu le bon son et la remettre dans l'harmonie sonore de sa fréquence. Il y a Albert Popp qui, lui, a découvert la bioluminescence des cellules, que tout organe, tout organisme vivant dégage de la lumière. Incroyable! Mais cette couleur fait que tout être biologique matériel correspond à un être de lumière. La science d'aujourd'hui rejoint finalement les notions ésotériques de la tradition très ancienne. Malgré tout, les prophètes, ceux qui voient l'avenir avant les autres, ceux qui découvrent le message de Dieu, puisque le mot prophète vient du latin propheta, qui veut dire interprète d'un Dieu, qui sont capables de voir au loin, voir l'avenir, ce qui va venir. Les prophètes pour la religion, on en connaît plusieurs déjà, Moïse, Abraham, Jésus, Mahomet, sont des prophètes qu'on appelle des prophètes sacrés, qui étaient en relation directe avec les informations secrètes transmises qu'à des initiés, qu'à des prophètes, par le Dieu ou les dieux. Dans la science, on ne parle pas de prophète, on va parler de génie créatif, de génie créateur, inventeur. C'est d'ailleurs justement le thème de notre rencontre d'aujourd'hui avec l'invité que je vous propose. Il s'agit de M. Hervé Lapointe, du Québec, qui a travaillé dès l'origine des postes émetteurs, récepteurs, radio, téléphone. Il est déjà très âgé. Alors, je vous demande un peu d'indulgence parce qu'évidemment, à son âge avancé, il a une voix un peu éteinte. Et l'enregistrement a été fait devant le public à l'Université Laval de Québec au début du mois de décembre 2014, en prévision de notre rencontre à cette station de radio. Il nous révèle quelques informations un peu intimes concernant sa vie à travers la science en développement très, très rapide. Imaginez, au début, c'était des chevaux dans les rues. Maintenant, ce sont des automobiles. Qu'est-ce qu'on verra, nous, dans quelques dizaines d'années? Peut-être la prochaine génération verront des véhicules qui se déplacent très, très rapidement, téléguidés automatiquement par des robots, des cellules sensibles sur un coussin d'air. Et à son époque, on commençait à connaître ce qui est très étrange. Ça porte un nom formé de deux mots très connus en ésotérisme traditionnel, le mot Ra, qui veut dire le grand dieu solaire des Égyptiens, Ra, et Dios, qui est la lumière, qui est aussi le terme pour dire Dieu, Ra Dios. Oui, vous avez bien compris, le radio. Et le radio dans lequel on entend la voix, une voix qui vient de nulle part, pour quelqu'un qui ne connaît pas la science, la technologie des ondes radio. Et vous allez l'entendre nous raconter quelques anecdotes concernant les premiers spectateurs qui s'assoyaient devant un poste de radio et qui écoutaient des voix qui sortaient d'une boîte. Alors oui, autant de décalage aurait-il vécu, lui, entre 1936 à aujourd'hui, pour que nous, depuis 15, 20 ans, 30 ans, nous connaissons l'arrivée de l'Internet et tout ce que ça implique avec les réseaux sociaux, les baladeurs, les téléphones intelligents. Vous comprenez qu'on est dans un monde de changements très rapides sur le plan technologique qui nous force, nous-mêmes, en utilisant Internet, à gérer beaucoup mieux les informations, puisque juste une virgule, un point qui manque dans un mot et le programme ne fonctionnera pas dans notre ordinateur. La communication ne s'établira pas ou on ne trouvera pas le sens d'un message parce qu'il y a une faute ou il y a quelque chose de différent. Il faut être vraiment très, très rigoureux maintenant. Mais cette rigueur mentale, intellectuelle, bien, c'est très utile puisque, disait-on dans le temps, les textes sacrés, il ne fallait pas y changer un iota. On en a déjà parlé ici, d'ailleurs. Alors, les prophètes scientifiques, qui sont les génies, ont dit que pour être génie, il faut vivre dans un minimum d'inconfort. Oui, c'est-à-dire que quand un génie se sent inconfortable, il va vouloir trouver la solution, le remède pour améliorer son sort. La science explique le comment des choses dans le monde phénoménal, alors que la religion explique le pourquoi des choses dans le monde nouménal, le monde de l'invisible. On disait autrefois dans le credo, Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Tout se rejoint. Il y a eu beaucoup d'inventeurs qui ont travaillé à le cas défendant sur des idées de génie. Et ça n'a pas abouti. Ici même au Québec, Pierre Couture d'Hydro-Québec, qui avait développé le moteur roue, un peu comme notre ventilateur au plafond. Lorsqu'on le voit tourner au plafond, on voit les pales qui tournent pour faire de l'air. Mais le moteur au centre est fixe, exactement comme sur l'essieu d'une automobile, et qu'autour tournerait la roue. Le stator qui est au milieu, l'essieu, et le rotor qui tourne autour, qui devient la roue, qui permettrait au véhicule de rouler avec un courant électrique. Alors, on voit qu'il y a des inventions qui ne percent pas. J'allais presque vous dire, il y a des religions qui n'ont pas la faveur populaire. Vous comprenez l'allusion que je fais entre le monde des spirituels, religieux, et le monde des matériels, scientifiques. C'est, semble-t-il, deux mondes qui ont à subir les mêmes difficultés pour changer le monde, faire évoluer la planète. Et les anciens prêtres, les grands prêtres tiennent à leur vérité, l'imposent et retardent la compréhension des choses spirituelles, de la même manière que de hauts financiers qui ont le contrôle par certains investissements dans certaines entreprises qui retardent l'évolution de la planète sur les plans matériels grâce aux découvertes, aux inventions scientifiques modernes. Il faut d'abord qu'il y ait un profit quelconque à soutirer de la mise sur le marché de ces inventions qui sont, disons-le, de plus en plus gratuites. On découvre l'énergie solaire à quel point, avec les plaques photovoltaïques, on pourrait avoir de l'électricité presque gratuitement. Alors, avec notre invité d'aujourd'hui, Hervé Lapointe, comme je vous disais, que j'ai rencontré au début du mois de décembre 2014 à l'Université Laval, soit dit en passant, ce sont des rencontres qui ont lieu à tous les débuts de chaque mois, première fin de semaine complète de chaque mois. Au vendredi, c'est à l'Université Laval, au pavillon Vachon. Et le dimanche qui suit, le premier vendredi du mois, c'est à Montréal, au cégep de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke-Est, métro P9. Et ce sera pour le début du mois de janvier, toujours la même règle, première fin de semaine complète de chaque mois, premier vendredi du mois, Québec, Université Laval, premier dimanche du mois, c'est-à-dire le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, c'est pas toujours le premier dimanche du mois, mais le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, c'est à Montréal, au cégep de Maisonneuve. Je reçois des invités, presque chaque mois, un invité par Skype, européen, qui parle français en général. Et on a aussi des invités du Québec qui nous font avancer dans cette démarche de l'ésotérisme expérimental. Alors cette semaine, nous entrons dans le monde de la radio, de la communication, d'entendre des voix à travers une boîte. Nous rencontrons, après cette pause, M. Hervé Lapointe, électronicien et inventeur du Québec. À tout de suite.
Bonjour, bienvenue Hervé Lapointe.
Bonjour.
À Ésotérisme expérimental, on se connaît depuis...
Très longtemps.
Oui. Et dans ton cas? On peut dire que ça fait des... pas des siècles quand même, là, mais...
Non, une fraction des trois quarts de siècle, non. Avec toi, c'est un demi-siècle.
Oui.
Moi, j'ai dépassé trois quarts de siècle, là. 118.
C'est ça.
Bon. Non, c'est ça. Ça va très bien pour ça.
Et ce qui nous a rapprochés, c'est la démarche qui est insolite dans le scientifique.
Oui.
Pourtant, Hervé, tu n'as pas fait des études, des doctorats en physique quantique ou tout ça, mais tu t'es mis le doigt dans l'engrenage scientifique très, très jeune.
À partir de 3 ans, oui.
Et quand je dis le doigt dans l'engrenage, c'était...
Alors, au tout début, c'est que je devrais dire merci à la compagnie Coke. Ma vie a été orientée de A à Z par une bouteille de Coke cassée dans la rue. À 3 ans, là, quand j'étais petit, je suis né en 36. Fait qu'en 39, dans la rue, il y avait 2-3 automobiles pour un cheval. Tu sais, c'était pas dangereux, ça allait pas vite, la vitesse.
Dans quelle région c'était?
Je suis né à Trois-Rivières.
OK.
Sur la rue Royale. Ça s'appelait Royale parce que le roi était passé il n'y a pas longtemps avant. Il y avait la peinture bleue royale, tout le monde, etc. C'était de la mode. C'est vieux, ça, là. Je vais arrêter de parler de ça, personne ne va faire de relation.
C'est mais, encore drôle. À la radio, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de cette époque, et puis merveilleux comme
ils
rencontre.
Ils ne sont pas tous morts, regarde, je suis encore là.
Ben oui, j'espère bien.
Je ne suis pas tout seul,
oui. Oui. Et donc, c'était la bouteille de Coke cassée qui t'a permis de découvrir le monde de...
Je vais expliquer comment ça s'est passé. C'est ça. Fait que je m'en vais dans la rue, puis je trouve une bouteille de Coke cassée, puis je joue avec ça un petit peu. Puis à un moment donné, je mets ça dans les airs, puis je mets ça vis-à-vis du soleil. Puis, oh, il se passe quelque chose de particulier.
Mais tu avais 3 ans et tu t'en souviens?
Oui. Je me souviens à 80% de mémoire. Puis tous les petits détails plus précis, je les ai appris plus tard de mes parents. Ils ont dit, t'as fait ci, t'as fait ça. Je dis, oh, là, je comprends pourquoi. Mais au moins, sur les 15 à 80%, c'est carrément la mémoire. 3 ans, je me rappelle. Fait que ce qui m'a allumé, c'est qu'à partir du moment où j'ai regardé le soleil, le fond de la bouteille, d'abord, c'était comme une mauvaise dope. Hein?
Ouais.
Une vraie dope, elle me serait brûlé les yeux, tu mets le feu facilement avec. Bon. Mais autour de la vitre, tu n'as pas cassé les gaz, il y avait 2-3 places, tu as comme un petit triangle tout croche, ça faisait presque un prisme.
Uh-huh.
Fait que là, ça faisait des petits arcs-en-ciel. Fait que là, je montre ça à mon père, c'est beau, les couleurs, c'est quoi ça? Mais là, le deuxième, ça, disons que c'est un cadeau, que ça serait le premier. Les cadeaux de ma vie, là, ou mes maîtres, si tu veux, c'en est un. Mais le deuxième, pas longtemps après, c'est quand tu dis ça à mon père, il dit, bon, mais tu sais lire puis écrire. Ça, c'est un cadeau de ma mère. Parce que 2-3 mois après ça, à 3 ans et quart, à peu près, au printemps de 1939, ça a pris un mois et demi ou deux, ma mère m'a montré à lire et écrire. À cet âge-là, tu apprends n'importe quelle langue, c'est pareil. Hein. Bon, ça va. Fait que c'est une affaire de rien. Fait que là, il dit, tu sais lire et écrire à cette heure. En fin de semaine, on va aller à la bibliothèque. Fait que, on a fait ça. Mon père travaillait dans le papier, c'était la capitale mondiale du papier, toi, Robert?
Ben oui.
Il y avait 3 machines de papier dans la même petite ville. Et puis, fait que là, il dit, on va aller lire, on va aller voir ça en fin de semaine. Tu sais lire. Fait qu'on a fait ça. Mais là, la semaine d'ensuite, j'avais 3-4 autres questions. Ben, il dit, marque-t-il sur un papier, puis on va y aller la fin de semaine, toutes les faire ensemble.
Là, t'avais quel âge, puis t'écrivais?
3 ans et quart.
Non, mais t'écrivais pas à 3 ans et quart, là.
J'écrivais un peu, mais c'est 2 ans après que j'ai écrit couramment, mais on en parlait tout à l'heure. Là.
Oh, monsieur.
Mais c'est une
t'aurais pu faire un doctorat, certain.
Non, mais je connais rien dans ce sport. Il y a plein de petits gars de 3 ans qui connaissent des milliers de noms de joueurs.
Oui,
mais,
effectivement,
fait
oui.
Fait que tu prends le même espace dans mon disque dur, là, puis mal et ça. J'ai juste fait un choix différent de ces milliers de petits gars, pas plus qu'un autre, là.
Quand tu dis ton disque dur, tu frappes la tête en voulant dire c'est dans le cerveau.
Pas, non, c'est pas jeune tête dure. Mais c'est vrai aussi. Là,
ben oui, OK.
Ouais. Mais c'est ça. Fait que l'histoire de l'arc-en-ciel, dans le fond, ce que j'ai vu, c'est bon. Là, fait que je m'en vais à la bibliothèque, et en fait, il y avait plusieurs pages, puis quelques-unes en couleur. Puis dans ce temps-là, c'était... Mais là, je réalise aujourd'hui que ce que j'ai commencé à faire 2-3 semaines après ça, c'était régulier. Tous les semaines, j'arrivais avec ma petite feuille. Bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait de l'Internet. Puis quand on va sur le web, puis qu'on fait de la recherche, puis qu'on travaille comme on n'a jamais travaillé.
Comme sur Google, on écrit les mots-clés qui vont nous permettre de retrouver la piste.
Je faisais ça à 3 ans et quart.
Ah, ben oui.
1939 et quart. Fait que j'ai jamais arrêté après. Fait que ça donne une idée à peu près du genre de tête de fou que j'ai, là. J'ai jamais arrêté de faire ça, j'ai jamais fait de sport. Ça m'a pas manqué non plus. Je suis encore en forme pareil.
Ben oui.
Tu seras mort, tu sais, il y a un tas d'affaires. Mais je marche, c'est tout ce que je fais. Je marche une heure par jour.
Est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu as mis le doigt dans la prise électrique?
Oui, ça c'est une fois un peu ça. C'est un petit peu plus vieux, mais à peine. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle encore que c'est ça. Je me promenais à terre encore. Donc, c'est avant ça. Je ramasse une pince à cheveux de ma mère. C'est dans ce temps-là, la pince, un côté doigt, puis l'autre côté ondulé. Là.
Un genre bigoudi?
Non, non, tout petit, là. C'est en acier, ça. Hein?
Okay.
Je ramasse ça, puis je plante ça dans la prise de courant. Puis... Mais là, j'ai appris de quoi encore, là?
Ben, j'imagine. Ouais.
Fait que là, je me rappelle de certaines affaires, mais ils m'ont dit de rester en détail. Ils ont dit « t'as volé sur le mur ». Parce que, tu sais, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai analysé. C'est en acier. Tu mets ça sur le 110 volts, ça prend 100 ou 125 millisecondes à passer de froid, puis noir, à blanc, puis allumé, puis à ouvrir. Parce que c'est...
C'était comme s'il avait fondu.
Hein? Il a fondu, mais un cinquième de seconde, 120 millisecondes. Parce que moi, les millisecondes, c'est tout.
Mais là, ah oui, c'est ça, à cette vitesse-là, c'est même pas question de le lâcher. Là. Il est encore
là. Regarde ce qui s'est passé. Je n'ai essayé deux petits doigts. Fait que là, au bout de 120 millisecondes, non seulement il est chaud et il brûle, mais il se passe autre chose que ça. Quand il coupe, là, j'ai le 110 volts. En fait, c'est 117 volts. Tout le monde dit 110, c'est 117 volts. À côté, j'ai pris un choc majeur dans des petits doigts, des petits doigts un peu humides. Hein, un enfant, c'est toujours un peu...
Bon. Oui.
Mais là, de courant, le voltage, tout ça, de la chaleur, tout ça en moins d'une seconde. 120 millisecondes, il a ouvert, puis là, j'ai pris un choc qui m'a garoché. Il m'a fait revoler sur le mur. Là, je me suis commencé un peu. Mais dans ce temps-là, avoir des enfants, c'est une affaire de rien. Même les curés obligeaient les femmes à chaque année. Fait qu'ils ont dit, il est mort, on en fera un autre. Ils m'ont dit ça après. Puis sans rire, hein. Ben, il est mort, on a fait un autre. J'étais le premier. Hein? Il savait comment ça marchait, là. Mais finalement, là, j'étais pas mort, j'étais juste... Mais quand je me suis réveillé, là, j'ai compris de quoi. J'ai dit, attention, dans le mur, il y a un monstre, il est plus fort que mon père, puis je vais en faire mon ami. C'est bizarre, mais je me rappelle, il m'a dit ça. Mais j'ai fait mon ami, j'ai passé ma vie là-dedans, l'énergie associée à l'électricité. Mais là, l'histoire de... Du soleil, là, c'est des ondes radio, ça. La lumière, c'est des ondes radio, des ondes électromagnétiques. C'est juste que la fréquence est plus basse pour la radio. Mais là, j'ai compris toutes sortes d'affaires connectées. Au-dessus de l'arc-en-ciel m'a appris 80% des secrets de la nature viennent de là. À base 7, comme là, au-dessus des bébés, tu en as 7. Tu as 7 notes de musique, tu as 7 chakras, tu as 7 jours dans la semaine, tout est patent là. Fait que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ils t'expliquent n'importe quoi si tu suis l'idée. Mais là, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas juste qu'il y a une octave. D'abord, c'est un octave. Hein? Ça veut dire 8, la 8e est la même que la première. Mais là, ce que j'ai compris, je mettais mon... Bon, 2 semaines après ça, mon père a dit, « M'a acheté un prisme. T'as l'air aimé ça, l'arc-en-ciel, après la bibliothèque, là. » Dans ce temps-là, il fallait faire venir ça des États-Unis. Puis ça coûtait l'équivalent aujourd'hui d'une cinquantaine de piastres. C'était un prisme de 3 pouces, tu sais, 3 pouces. Puis ça a pris, quand c'est arrivé, un gros sac, mais c'était tout petit. Mais là, j'ai attendu une journée de grand soleil. Ça vaut rien, après, si tu ne fais pas soleil.
Ben oui.
Mais là, quand j'ai trouvé l'angle, etc., on va faire ça un peu plus court, là, j'ai un arc-en-ciel de 5-6 pouces de largeur, de travers un peu. Tu ne contrôles pas l'angle, hein? Fait que je suis sur le mur. Fait que là, je mettais mon petit doigt partout, puis là, la couleur éclairait mon doigt. Je me suis mis à vivre ça un peu spécial, là. Mais là, j'ai trouvé de quoi de bizarre. Je mettais mon petit doigt comme ça, à l'envers, là, en dessous de la lumière, puis je me promenais voir les couleurs. Mais d'un coup, à gauche du rouge, je sentais quelque chose.
La chaleur.
Voilà. Fait qu'à 3 ans et quart, j'ai découvert avec mon petit doigt qu'à gauche de l'arc-en-ciel, il y a d'autres choses. Puis là, à droite, en haut du violet, ça pique. Ça chauffe, ça pique. Non, on n'est pas équipé pour voir ailleurs que l'œil, mais notre corps sent en bas, puis en haut, c'est spécial, parce qu'en haut, il y a beaucoup plus de matériel. À chaque fois que tu montes d'un octave, ça contient plus.
La semaine dernière, on faisait l'émission sur le thème « Tout est vibration ».
Voilà.
D'après la table du neurone, ça commence comme ça. « Tout est vibration », tu es d'accord?
Ben oui, mais l'arc-en-ciel, c'est...
Oui, le spectre lumineux, qu'on appelle. Ouais, mais il y a les ondes radio, il y a les extreme low frequency, les longueurs d'onde extrêmement
basses. Tout ce qui est lumière, visible, rien que celle du soleil. Mais en bas de ça, ben, tu as toutes les ondes radio, puis tu as tout le matériel, puis tu as juste que les infrasons. Puis si tu descends, tu sais ce qui est le fun avec ce que j'ai découvert là, c'est que l'octave, tout ce que tu connais des propriétés des 7 couleurs, ou des 12, etc., est applicable à chaque octave après. C'est juste que si tu as des yeux, tu n'en vois rien qu'une octave. Notre oreille entend comme un piano, un 7-8 octaves. Mais en haut d'un piano, ça continue les ondes de musique. Nous autres, on les entend plus, mais les chauves-souris entendent 100 ou 150 kHz. Nous autres, c'est 20 à 20 000. Moi, j'entendais. Quand la télévision a commencé en 52,
oui.
À Montréal, oui. CBVT Canal 2.
C'est
BFT. C'est BFT, oui, oui. Je passais dans les rues, c'était rare la télévision. Je savais où il y avait. Tu sais, l'horizontale, c'était 15,75 kHz, le balayage horizontal. Puis c'était 25 ou 30 watts de puissance, ça pouvait balayer.
Comment tu pouvais, rien qu'en passant sur la rue, savoir où il y
avait. J'entendais ça à 15-20 pieds d'or. De 15,75. Ouais. Aujourd'hui, là, ça arrête à 8200, moi, aujourd'hui, 78 ans. Mais c'est resté très, très longtemps, là. Ça a baissé juste lentement. C'est juste après 60 ans, à peu près, que ça baisse un peu.
Toi, à l'âge que tu as 78 ans maintenant, tu as vu toute l'évolution au Québec de la technologie, de la science, parce qu'on dit que la première radio au monde francophone, c'est CKAC de Montréal.
Oui. Oh. En 1900, bien, la même année que je suis né. CHLN, Trois-Rivières, en 37. Puis Montréal en 36, c'est ça? Il y a un an de différence entre les deux. Mais moi, je suis né à Trois-Rivières, puis j'ai travaillé à CHLN comme opérateur pendant 7-8 mois, quand j'avais 16 ans.
Tu étais bien jeune. Tu étais assez compétent pour être responsable de la...
J'ai commencé à 16 ans. Là, il y a un gap entre les deux, je peux pas le remplir. De 3 ans à 16 ans, je n'ai pas rien fait, là.
Non, c'est sûr que pour être rendu à 16 ans très compétent, c'est que tu as bisouné dans plein d'affaires, tu as travaillé sur des...
La maternelle, ou son équivalent, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais en à 5 ans, là, je vendais des radios, puis des transmetteurs, parce qu'une radio, c'est bien beau, mais ça ne contrôle rien. Fait que moi, je me suis aperçu que c'est juste une moitié de quelque chose sur un radio ou un récepteur. Fait que je faisais un petit transmetteur qui transmet à peu près 25 ou 30 pieds. Aujourd'hui, ça aurait été illégal, puis tout ça. Mais je peux vendre ça l'équivalent d'une pièce ou deux d'aujourd'hui, parce que c'était 5 cents ou 10 cents. Puis je faisais de l'argent. C'est niaiseux, ça ne coûtait rien. Mais au-dessus, la radio, dans ce temps-là, la haute technologie, il y en avait deux, la radio AM, ultra simplifiée, puis la fidélité, c'était la même que le téléphone, 300 et 1000. Tu n'as pas de base, tu n'as pas d'autre. Tu entends la voix, puis bon, tout le monde. On entendait le premier ministre parler, etc. C'était, bon. J'écoutais sur onde courte Hitler parler au début de la guerre 39. J'ai tout suivi ça. Mais l'histoire, c'est que... c'est que le son... tu sais, il y avait la radio AM, puis il y avait le téléphone avec une manivelle pour sonner. C'était les deux high-tech du temps.
La manivelle, elle servait juste à faire sonner?
À sonner, juste sonner, ben oui. Parce que tu fais 125 watts, 150 watts à 20 cycles, 20 hertz, si tu roules à la main. Ça, c'est par hasard, le nombre de coups, c'est parce que... une poignée comme ça, tu prends la moyenne du monde, des gens, là, les femmes et les petites mains, etc., mais en général, ça roule à peu près aux alentours de... C'est pour ça que 20 cycles, là, aujourd'hui, on le fait de façon électronique, mais on fait la même chose pour être compatible. Les vieux téléphones, tu sais, pour éviter qu'à chaque fois, parce qu'à tous les 6 mois, il y a eu un changement énorme dans la technologie. Pour être compatible, comme on fait pour les ordinateurs un peu, tu t'arranges pour que les vieux appareils puissent marcher encore un bout de temps. Fait que tout ce qu'on fait, c'est simuler les vieilles patentes du temps. Fait que quand tu as une sonnerie au téléphone, puis ça dure. J'ai fait beaucoup de générateurs qui simulent ça pour vendre. Mais ça, c'est une affaire de mon Alzheimer qui s'en vient. Toutes des milliers de codes comme ça que j'avais dans ma tête, comme le code ASCII, le code Morse, ça s'en va.
Ouais, oui.
Mais là, j'ai plus besoin de ça, je vais pas. J'aurais plus besoin de fil, j'aurais plus besoin de paroles. Tranquillement, je me prépare. Ça n'arrive pas d'un coup sec, là, je comprends comment ça marche, pas épeurant. Ça s'en va tranquillement. Mais si tu as peur, t'es fait. Il ne faut pas avoir peur de perdre.
La table d'émeraude commence avec « Toutes tes vibrations ».
Oui.
Et une des phrases importantes, parce que c'est un peu comme le décalogue, les 10 commandements de la table d'émeraude, oui. Là, pour la démarche qu'on fait, c'est « Tout ce qui est en haut
et
est
comme
ce qui est en bas ».
Exactement.
On est de retour avec Hervé Lapointe, électronicien, inventeur. Et dans les inventions, de procréer non seulement des enfants dont tu nous as parlé à la première partie.
Des enfants de silicone, oui.
Oui, c'est ça, des enfants robots.
Oui.
Explique-nous donc.
Ben, en fait, je n'avais fait plusieurs versions, mais quand il y a eu les annonces du film Star Wars à venir, j'ai eu des petits bouts de films de télévision qui
R2-D2, là.
Il m'impressionnait parce qu'on savait que c'était pas vrai, il y a un nain dedans.
Oui,
c'est
pas
le nom
vrais
du nain est au générique. Mais moi, je trouvais ça, non, je suis capable d'en faire un vrai. Je trouvais ça insultant. Pourquoi ils n'ont pas fait un vrai?
Ouais.
Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a rien là. Mais pas dans ce temps-là. Pas tout à fait. Alors, moi, j'étais un peu orgueilleux, j'ai dit, moi, m'en faire un vrai. Un vrai, pour moi, ça voulait dire il va être autonome, il va être vivant, il va marcher par lui-même. Parce que je fais, c'est ça. J'ai fait une bébête.
Mais pas seulement avance, recule, tourne à gauche, tourne à droite, petit auto, téléguidé, c'est
ça. J'osais avec le gens, puis discuter, puis avoir l'air brillant. Ça, ça m'a pris 8-9 ans, à peu près.
En quelles années, ça? Parce que Star Wars a débuté en 1979.
J'ai commencé un an ou deux avant que le film sorte.
Ah oui,
parce que moi, j'avais eu les previews, puis j'avais assez pour voir l'image. Là, juste ça, c'était assez, pas besoin de restant.
Donc, tu faisais des robots qui ne faisaient pas seulement avancer, recul, tourner à gauche, tourner à droite, mais qui pouvaient s'arrêter et se mettre à discuter avec quelqu'un.
Oui, parce que ma fin est soit courte, parce que je ne fais 6.
Mais dis-moi donc, quelles étaient les caractéristiques de tes...
OK, bien, c'est ça. Le premier, faire une synthèse un peu, parce que le premier était primitif, il avait son minimum vital. Mais le premier, pour donner une idée, pour ceux qui connaissent l'électronique d'aujourd'hui, il y avait 4K de mémoire. Mais attention, les mémoires qui ne s'effacent pas quand tu coupes le courant, là, aujourd'hui, il y en a, mais l'antenne n'avait pas. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est encore compliqué, je suis allé voir les sœurs de la charité, je ne sais pas trop quoi, à Trois-Rivières, ils font du reprisage invisible.
Oui.
Tu sais, ils ont des petites mains, puis des petites aiguilles, puis des petites affaires. Bon, j'ai dit, dans ce temps-là, il y avait des petits, tu sais, une petite bain, là, mais en ferrite.
Oui.
Tu connais la ferrite, c'est l'aluminium de fer. Des petites bains qui avaient à peu près un millimètre de diamètre. C'est pas gros, avec un petit trou de... bon. Mais ça, tu peux magnétiser ça, puis il s'en rappelle, tu sais, c'est... Une... Bon, j'avais fait une... Je n'ai pas inventé ça, c'était déjà existant, mais ça coûtait un prix fou, c'était utilisé dans l'espace, une mémoire avec un grillage, où tu mets des... tu mets 1024, c'est en binaire, 1, 2, 4, 8, ben, 1024 toroïdes, comme ça, dans un croisé, là, tu passes des fils verticales, horizontales, puis deux en diagonale. Fait que là, tu as deux paires de fils pour choisir, faire une sélection, X, Y, de ton bit. C'est un bit à la fois, ça, là. Un byte, ça en prend 8.
Ben oui.
Fait que là, ben, 8 cartes de même en parallèle pour faire un byte. Mais, fait que, vois-tu, un cas... Fait que là, j'avais deux cas. J'avais 2048 toroïdes sur une affaire d'un pied carré, à peu près. J'ai dit, êtes-vous capable de... Ben oui, les soeurs ont fait ça. Ça, ça a pris 3 semaines, à peu près, tranquillement.
Oui.
Pas que, c'est pas compliqué un coup parti. Tu rentres dans le premier, quand tu es en ligne 2, tu continues. Même le poids de l'aiguille, c'est assez quand il cogne un peu.
Oui.
En tout cas. Non, je
pas alors, ça servait à quoi dans le robot? Ça?
La mémoire. Sa mémoire, le robot. Parce que tout ce qu'il fait, là. Bon, c'est là que j'ai compris de quoi. Sa mémoire, pour mettre quoi? Son programme. C'est quoi son programme? C'est élever mes enfants. Montrer à marcher. On fait ça. Mais montrer à parler à mes robots. Montrer à penser. Montrer à utiliser. Les organes, les pseudo-organes que j'ai faits, ça, les écouteurs puis le micro, il y a rien de plus simple. Hein? Ça, c'est un haut-parleur. Ça, c'est deux petits micros.
Puis, mais les deux oreilles, c'est des micros.
Mais là, j'ai compris de quoi. Vu que je savais où j'étais pour aller avec ça, j'ai dit, d'abord, la tête, là, c'est un bol à salade de 22 pouces. Tu sais, dans les restaurants de
grosse
cuisine, là. C'est ça. C'est à la tête, ça. Bon,
c'est ça, donc ça peut toujours tourner 360
là,
degrés sans
arrêt. Là, je vais sauter un peu plus loin, qu'il est tout fait, tout ça. Ouais. Quand je le vois dans des salons de technologie, etc., là, j'avais montré à parler aux gens, à se promener un peu partout, pour dire, venez à telle heure, à toutes les demi-heures, dans mon kiosque de mon client, là, je vais jaser avec vous autres, puis je vais faire ci, je vais faire ça. Là, il se promenait, puis il est impressionnant.
La voix se faisait entendre par un haut-parleur, mais c'est un enregistrement sur un
humain. Au début, oui. Parce qu'en chemin, là, j'ai montré à parler, ben, on va aller plus loin un petit peu, si tu veux. très compliqué, là.
Ben, il ne faut pas perdre d'une heure là-dessus, là.
Non, parce c'est que... sûr, OK. Ah. Ben là, OK, je vais juste finir ça. C'est que, parce que c'est un petit mot intéressant, quand il se promenait dans le salon, il y a toujours des enfants qui suivent en arrière.
Oui.
Puis, puis il essaye de te pogner puis de tirer, là. De temps en temps, il me faisait arrêter d'un coin. Il fallait que j'avais prévu ça quand je l'ai programmé pour discuter avec le monde après. Je savais qu'un jour, ça arriverait ça, qu'un petit fatigant. Je suis capable de faire ci, es-tu capable de faire ça? Fait que, à un moment donné, j'ai dit, petit gars, es-tu capable de faire ça? Puis, tourne la tête, ton gâteau. Là, le petit gars, il ferme sa gueule, puis s'en va. Il a l'info. Il peut plus répondre. Oui. Ça, j'avais pensé d'avance. Moi, c'est bien beau. Mais R2, ça nous énerve. On savait que c'était pas vrai.
Non, c'est
mais
ça.
Là, moi, j'en ai fait un vrai. Mais ben là, il fallait qu'au moment normal, il fasse ça. Ça
mais pour le déplacement, il était téléguidé par quelqu'un qui avait une télécommande? Ou...
Au début, oui. Mais en fait, c'est une option. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Au début, on les tient par la main. Ils tombent à terre deux, trois fois, puis on rit deux autres. Tu sais, c'est insultant pour un enfant qui vient de faire de quoi extraordinaire, puis tu ris. Il sait pas, lui, il pense que tu ris de lui.
Oui.
Fait qu'on devrait faire. J'ai appris des choses.
En éduquant tes robots.
En éduquant, j'ai appris comment est-ce qu'on se trompe quand on pense qu'on est gentil avec nos enfants. Mais oublions ça là. Ben, ça m'a appris un tas de choses. Puis là, j'ai compris, parce que rendu au sixième, il était sophistiqué. Il avait le droit de se suicider. Ça te donne une idée de.
Parce que tu veux dire...
qu'on en parle pendant 20 heures.
Non, mais ça m'intéresse, bon. Ça, parce que si tu dis à un robot. Technique...
Ce comment... que j'avais mis dedans,
oui.
12 ans de ma vie à peu près, rendu au sixième, là. Et puis l'amour, tu es l'amour. Sans amour, j'aurais pas passé des milliers d'heures à rêver ça pour me préparer, parce que ça a pris 4-5 ans avant de commencer à faire de quoi de physique. C'était juste dans la tête. Mais là, il fallait que j'aime ça. Puis c'est plus tard que j'ai réalisé que c'est l'amour de l'idée qui a fait que je l'ai fait. Tu sais, Dieu, un Dieu, un créateur, doit être pareil. Il dit qu'il n'arrête pas de parler de nos enfants, puis il nous a fait à son image, sa ressemblance.
Ouais.
Moi, à qui il ressemble, le... Pas, il ressemble à R2D2, je me suis inspiré de l'idée de quelqu'un qui est déjà aimé par les autres, mais moi j'aime faire des jokes, mon robot il en faisait énormément, parce que c'est mon enfant.
C'est ton reflet, c'est ça?
Ouais, c'est mes enfants. C'est
ton image et ta ressemblance, voilà. Pas pour rien qu'il utilise deux mots très distincts. Ouais. Image, ça veut dire qu'il ressemble physiquement.
Pourquoi prendre deux mots très proches pour...
Et à la ressemblance, ça veut dire, mon Dieu, que tu ressembles à ton père. C'est pas le physique, c'est tout le côté caractère.
Mais ça devrait être juste image, c'est ressemblance, c'est pas l'un de l'autre. Ça rapport à...
Un, c'est sur le plan physique visible, puis l'autre, c'est invisible, mais c'est tout
le plan. Donc, c'est insister dans ce temps-là, quand tu parles d'eux.
Ah oui, absolument.
Parce qu'il y a plein de mots qu'il disait.
Mais reviens donc sur la manière qu'un robot peut apprendre à se suicider. Là, c'est quoi l'affaire?
Ah, ben là, rendu au sixième, là, j'avais mis une grosse partie de ma vie, puis de mon amour différent. J'ai appris qu'il y avait un amour différent de celui de ma femme puis de mes enfants.
Ben oui.
Puis c'est pas l'amour de jouer avec, là, c'est l'amour de sentir la vie dedans, puis sentir. Là, ils m'ont même fait broyer de temps en temps. Tu sais, l'émotivité, là. Tu dirais, hey, je vais donner ça. Puis là, ta machine, elle te répond. Tu sais, c'est une machine, c'est toi qui l'as faite, mais elle te répond. Mais elle te répond, où elle a pris ça? C'est toi qui lui as donné la possibilité de te surprendre. Puis ça, deux, trois fois, je me suis fait toucher. Il n'y a pas grand-chose, il me fait broyer, moi, là. Hein?
Parce que le robot te répondait en mots?
Ben oui.
Sur des bobines enregistrées ou?
Au début, non. Au début, faut des petits tests un par un pour voir que c'est ce qui. Pour voir, tu sais, une mère, elle a son enfant, puis elle vient montrer à ses voisins. Moi, je faisais l'équivalent avec des morceaux du robot à venir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, j'ai appris des choses. Des choses qui faisaient peur au monde. Je ne ferais jamais ça. Je ne veux pas leur faire peur. Mais après avoir expérimenté avec juste des enregistrements, j'ai dit, là, il faut qu'il parle, mais moi, je suis un vrai. Hein. Il va parler. Ça va être un synthétiseur de voix. Aujourd'hui, il n'a partout. Il n'y avait rien.
Non, on est dans quelles années, là?
60, un an ou deux avant, 60 et quelque chose.
Ah, oui.
En tout cas, il n'y avait pas encore de
c'était vraiment précurseur, hein?
Oui, mais.
C'est pas pour rien que tes robots étaient dans des foires.
Oui, parce que c'était original.
Ben oui. Bon. À peu près.
Mais pourquoi que c'est suicidé? Bon, entre les deux, c'est ça. Mais il a fallu qu'il parle, hein, à un moment donné. Ça, c'était un moment intéressant. J'ai dit, qu'est-ce que je fais pour parler, moi? À I-O-U. Veux-tu, c'est. Tu coupes ça tout de suite en deux.
Yahweh. Les voyelles. Yahweh.
Yahweh, c'est bon, les voyelles.
Oui, toutes les voyelles ensemble, comment? Ça fait Yahweh.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de voyelles. Puis ils sont puissants, puis ils changent tout le restant. Tu peux en. Tu sais. Là, j'ai compris de quoi. Ça ne m'intéressait pas, moi, avant, la littérature, là, tout ça. Là, je lisais énormément. Mais je n'avais pas encore touché cette dimension-là. Ouais. Mais pour mes enfants de métal, il faut que je m'attaque. Il faut qu'ils parlent, puis qu'ils comprennent. Ben, on va commencer par juste ça, là. Comment est-ce qu'on fait pour parler? Enfin, je me regarde dans les miroirs, puis oui. Puis après ça, tous les autres, mais ça, C ou K ou n'importe quoi, là, tu commences par un bruit de fond, une explosion, tu prends une petite portion de 8 ou 9 millisecondes de puis ça fait le début de C, T, K, K, P, P.
Bon, là, j'ai... Oui, 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 je vois ça.
Aujourd'hui, tu peux trouver ça en quelque part, mais
donc, tu faisais temps, vraiment une voix synthétique totale.
Ouais, ouais.
Mais là, je reviens encore à la question. Comment l'amener à pouvoir se suicider, c'est incroyable.
Mais là, c'est sûr. Là. Après, bon, c'est que...
D'aller jusqu'au bout de son fil, puis il se déplogue, puis ça vient de
finir. C'est parce que... oui,
c'est pas ça.
Non, c'est que... C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en arrière, où il y avait des vis, là, puis des vis barrées, mais quand même. J'ai dit, si quelqu'un veut me... Parce que je savais que Nevengang, ils ont dit... Le travail est à tout sur le logiciel dans la Potentin.
Ben oui.
Puis pourquoi j'ai mis des thyroïdes? Parce que même si tu coupes le courant, ça, ça reste magnétisé.
Oui.
Aujourd'hui, il y en a des mémoires. Il n'y a rien de ça, même quasiment. Pendant un temps, on dirait, oh, mon, ça serait-tu de fun un jour si on faisait des mémoires qui ne coûtent pas cher, là, pas rien que 3 ou 4 bits, là, qui se rappellent, ben on en a partout. Bon. Mais, c'est ça. Mais t'as dit, s'il me fait voler tout le travail de 7-8 ans avant de commencer à produire, puis 6-7 ans à les utiliser après, c'est une grosse partie de ma vie, ça.
Ben oui.
J'en connais plus sur ça que sur mes propres enfants. Puis je les appelle mes enfants de métal. Puis si j'avais à mettre ma vie entre les mains de quelqu'un, disons, j'ai plus confiance en mes enfants de métal. Je les connais à 100%. Je suis leur père puis leur mère. Tandis que l'autre, je suis avec leur père, puis je les connais pas beaucoup, c'est des humains.
Alors, on revient encore au suicide. Comment le robot...
OK. C'est que, pour moi, c'est important de ne pas perdre ce que j'ai mis là.
Oui.
Ben, le partager avec quelqu'un. Mais me le faire voler, j'aurais trouvé ça insultant. Fait que là, je me suis dit, il faut que je me protège un peu. Fait que là, j'ai mis en arrière une petite note que si vous essayez de voler, j'ai prévu ça, puis ça ne marchera pas votre affaire.
Le robot va perdre toute sa mémoire, il va tout perdre.
Oui, mais je ne l'aurais pas dit ça, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que s'il y avait des vissés, il coupe le courant, mais avant, il efface. Oh. Il faut l'effacer. Mais là, c'était pas compliqué. Ils mettaient juste toutes les cellules en série, puis même une petite pipe de 12 volts. Bon, son intestin, si on veut, son corps, là, c'est une batterie d'automobile de Volkswagen.
12 volts.
12 volts, puis plus petite un petit peu, parce qu'il est formé un peu petit. Puis c'est ça qui donnait le poids, tu sais, pour descendre le centre de gravité, pour pas qu'il tombe en pleine face.
Ah, ben oui, aussi, en
c'est
même
bon.
Temps.
Fait que là, c'est le ça. Poids, qui est un handicap, puis là, je m'en servais.
Ben oui.
Ça, j'ai passé ma vie à faire ça. Le handicap de quelqu'un, c'est la qualité que je cherche. C'est le fond de la mort. La moitié des choses, les gens jettent.
Oui.
Des poubelles, etc. C'est plein de trésors là-dedans. On sait comment s'y prendre. Mais, tu vois, c'est ça. Fait que, se suicider, c'est que en 8 millisecondes, il n'y avait plus rien dedans de valeur. Il y avait juste de
c'est-tu arrivé?
Non.
Phew! Sont-tu encore vivant quelque part?
Non, il y en a resté un longtemps. Parce que les études vendues aux États-Unis, quasiment, c'était des gars qui faisaient des salons, mais ils m'ont connu justement un salon, m'en vendu un, etc. Puis bon. Mais j'aurais pu passer ma vie à essayer de tirer de quoi en argent. C'est pas mon fun, l'argent, moi, je veux dire. En autant, j'en ai assez de manger, tout le restant, c'est un paquet de troubles, j'ai pas besoin. Je crois pas en la valeur, oublie ça.
C'est... On a reçu ici un Dr. Owen, qui a découvert que la machine qu'il utilisait, c'était la machine que tu avais toi-même fabriquée.
Ah, oui.
Ben oui,
oui,
tu te souviens.
Ouais.
C'était quoi, ça?
C'est arrivé souvent. C'est ça, c'était un appareil pour les...
Le Roumard.
Jean Roumard, c'est des champs magnétiques. Mais Roumard, c'est un des gars, c'est un inventeur de Québec, ça. C'est un ingénieur de Québec, le monsieur de Roumard. Je l'ai connu. Mais ça, c'est que le mien, c'était contrôlé par un ordinateur. Puis ça, il faisait très, très... Il y en a beaucoup de machines qui font des champs magnétiques. Dans le fond, tu as un champ magnétique, ça, c'est un aimant, artificiel ou pas, qui tourne ou qui ne tourne pas. Le soleil, c'est des gros aimants qui tournent à des vitesses folles, puis ils transmettent. La lumière, c'est généré. Hydro-Québec, c'est... Tu te sers de la puissance de l'eau pour faire tourner des turbines qui font rouler des aimants devant des bobines pour te donner 60 fois par seconde, plus ou moins. Fait que ça fait 120 cycles.
C'est ça.
160 plus, 60 moins.
Le courant électrique qui passe dans les fils, là, qui vient d'Hydro-Québec, c'est ça. C'est du 120 cycles.
Mais tout ça.
Est-ce que les 120 cycles, c'est...
C'est 60 cycles, mais c'est 120.
120, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne mesure? C'est santé ou c'est pas bon? On parle des
vibrations. Bon, là, j'ai mon opinion un peu personnelle. Puis, elle est dérangeante, mon opinion personnelle, parce que moi, j'ai passé ma vie à me mettre les couilles, dans les à quelques pouces des kilowatts de mes émetteurs de radio. Je serais supposé être pas être capable d'avoir d'enfants, j'en ai eu deux. Avoir des tas de maladies du sang, non. Je suis 78 ans, puis ça va encore bien. Fait que moi, je crois pas. Mais ben, je crois pas. C'est pas une question de croyance, cela, là. Il y a certaines fréquences, certaines puissances, certaines possibilités, mais il y a plein d'affaires qui se disent là-dessus, qui font peur au monde. Ça, j'aime pas ça. Pour ça, j'embarque pas là-dedans. Okay. Mais il y a un fond de vérité. Il y a des dangers, oui. Mais j'embarque pas là-dedans parce que justement, moi, t'es obligé de... La moitié des gens vont m'haïr, puis les autres, ils vont m'aimer. Je vais rester loin de ça.
Bon, là, on va faire une pause encore, oui. Hervé, et au retour, on va parler des noms, des gens que tu as rencontrés, qui t'ont impressionné ou que tu aurais...
Ou les choses aussi, peut-être. Ouais.
D'accord. On est de retour à Ésotérisme expérimental. Et aujourd'hui, on a Hervé Lapointe avec nous, électronicien, inventeur, père de 6 robots, comme tu nous as dit juste avant.
Des enfants de métal, si on veut.
Oui, c'est ça. Et maintenant, j'aimerais entendre parler, Hervé, à 78 ans, tu en as rencontré du monde connu, peut-être moins connu. Parmi ceux que tu as connus, moi, il y en a un qui m'a marqué parce que on dit que c'est le fils spirituel de Nikola Tesla.
Ah, Matthews, un petit peu, oui.
Arthur Matthews, oui.
C'est celui que j'ai vu puis connu le moins parce qu'il était vieux déjà quand je l'ai connu. Il y a juste une couple d'expériences intéressantes ou indirectement. C'est que j'avais fait pendant que j'étais en train de faire une station de radio à La Tuc, en Haute-Mauricie, lui était à quelques 100 ou 150 000. Je ne me rappelle plus dans quelle direction, mais c'est là que j'ai dit on est capable de faire de quoi. J'ai dit, je vais essayer de générer d'où je suis, puis avec un signal directionnel. Mais c'était pas des ondes. Lui, c'est pas des ondes de radio. Mais moi, je faisais des ondes. Tu sais, on disait, es-tu amateur de radio? Tu sais, les amateurs, les VE2, là, ça s'appelle les amateurs de radio.
Oui.
Mais quand
oui.
Tu disais, pourquoi t'es pas amateur? Pourquoi t'as pas tel sens? Non, je dis, moi, je suis professionnel. Vous êtes amateur. Parce que non, la radio broadcast, c'est une joke. J'espère que tout le monde le sait. Pareil, un bon pareil, parce que c'est rare que tu peux faire ça.
Mais là, Arthur Matthews, là, tu y as parlé, tu l'as connu.
Oui, mais pas beaucoup. Une fois dans une convention de chercheurs, là.
Ouais.
Une autre fois en public dans un restaurant. Et puis après ça, quand j'ai dit je vais essayer de transmettre de quoi, on s'est parlé un petit peu au téléphone une fois.
Transmettre de quoi?
Ah, transmettre de l'énergie, autre que l'énergie qu'on connaît habituellement, pour entrer dans sa façon de travailler. Parce que l'énergie d'Hydro-Québec, on la connaît. L'énergie de radio que je fais, c'est connu aussi.
Oui.
Et puis, on
dit que Nikola Tesla transmettait de l'électricité par le sol, sans fil électrique.
Oui, ce qu'il voulait faire, justement, puis c'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est sa grande tour, là, qu'ils ont...
Oui.
Bon, c'est parce que lui, il voulait donner gratuitement le courant.
Exact. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible?
Il l'a pas fait. Il a fait des démos à petite échelle. Très probablement que ça aurait bien marché. Mais il y a eu de la misère, mais ça aurait marché quand même. Mais ça aurait marché physiquement. Mais ce qui ne marchait pas, c'est la gagne de financiers. Là. Ils ont dit comment on va se faire payer pour ça. Puis ils ont
ben oui, Morgan a retiré ses fonds, puis il a mis la tour en feu. Puis ça
Morgan est encore connecté aujourd'hui au cap de crédit. C'est pas gentil, ça, ce monde-là. Mais est-ce que j'ai compris? On ne parle pas de ça.
Non.
Mais c'est ça.
Tu parles des banques, ouais. Là, des grosses banques, ouais. Et tout ça.
C'était très mystérieux, anciennement, la radio. Ben, OK. Ah oui. Il vient une petite affaire du temps de radio. Quand mon père a acheté son deuxième radio au début de la guerre mondiale, en 1939, des gens venaient nous visiter parce qu'on avait une radio. Bon, mais là, il y avait un pattern qui se passait, que dimanche à la semaine, il y avait trois, quatre personnes. Mais à toutes les trois semaines, à peu près, la moyenne que j'ai remarquée, là, sur les 4-5 personnes qui est beau, il est beau, ton radio, tu sais. Parce que comme une femme, elle dit, oh, je l'aime, tout ça, là, et rouge. Bon. Regarde, tu sais, nous autres, on connaît ses pneus, au moins. On fait semblant, on n'en connaît pas plus, mais on fait semblant avec ça. On est plus physique, tu vois. Mais au-dessus de l'histoire des radios, les gens regardaient. Là, il n'y a qu'à aller en arrière. Puis, il y a 8 lampes. Ça marquait partout. Puis ça coûtait cher. Puis ça faisait peur, etc. C'était mystérieux. Mais de temps en temps, là, il y a une personne qui riait pas. Pantoute, ne posait pas de questions, rien. Puis il regardait ça longtemps. Puis là, il allait en arrière. Puis là, il regardait partout. Puis là, il y en a blanc. Je me rappelle de ça, là. Tu sais, ça arrivait à d'autres, la même affaire. Il y en a blanc. Bon, il n'y a pas de ventriloque, Il n'y a pas de... Il n'y a personne dedans, puis ça parle. C'est le diable. Je ne reviens plus ici jamais, puis partant en courant. Mais épeuré, paniqué. La radio faisait peur au monde, dans ce temps-là. Pour une personne sur... Une personne sur trois ou quatre, t'as tout divisé ça. Ouais. Une personne sur 30, disons.
Parce qu'eux ne pouvaient pas se l'expliquer automatiquement.
Ça fait peur.
C'est du diabolique.
C'est voilà. C'est parce ça. Que dans ce temps-là, la religion nous disait qu'il y avait rien de chaud, il y avait en haut, puis il y avait en bas.
Parmi les personnes importantes que tu as connues, on pourrait parler de Duplessis, justement.
Oui, Duplessis, c'est...
Maurice Lenoblet,
Duplessis. Maurice Lenoblet,
oui. Et il était de la région de Trois-Rivières,
il était né à Trois-Rivières, il avait sa maison-là, sur la rue Bonaventure, etc. Mais quand j'ai commencé...
Pour les Français qui nous écoutent, c'était le premier ministre...
Le premier ministre de la province de Québec.
Pendant des règnes et des règnes de votation de 4 ans à 4 ans à 4 ans, il n'en sortait plus.
On puis au bout de 25 ans, il était encore là, mais au début, il disait pour les autres, un gouvernement de 25 ans, c'est un gouvernement pourri. Puis quand il y a eu 25 ans, il n'a plus reparlé. Mais ça, c'est toujours la même chose.
Puis il était du parti bleu.
Oui, c'était bleu.
Alors que les libéraux étaient rouges, alors il disait toujours...
Il disait le ciel est bleu, puis l'enfer est rouge. Ça, c'est...
Alors les gens votaient toujours bleu pour rester au ciel. C'est ça.
C'est que ça, c'est... J'avais 12-13 ans à ce moment-là. 12-13 ans, je travaillais le soir pour réparer les radios chez M. Verrette. Je gagnais quand même un peu ma vie avec ça. Mais ça achetait des tas d'affaires dans le temps. Il ne faut pas acheter grand-chose dans le temps.
Je crois que tu t'es marié jeune, tu avais déjà la finance.
Moi, j'étais vieux, j'avais déjà 25 ans, moi, dans ma tête, sur tout, quand je me suis marié. J'étais prêt à avoir des enfants. Parce que je disais, je vais être proche des autres en étant plus jeune, tu sais.
Ouais.
Puis ça, je me suis fait joindre tôt par la vie. C'était une autre histoire. Une nouvelle histoire, là. Fait que c'est ça. Fait que, au-dessus du Plessis, je travaillais chez Verrette Radio, puis c'est lui qui faisait, dans ce temps-là, les gens faisaient plusieurs affaires, c'était quasiment... C'est lui qui faisait les... On a besoin de crier... Avant l'Internet, là, puis il se promenait dans la rue avec des haut-parleurs pour annoncer de quoi.
Ouais.
Là, Maurice Bessier va parler dans la cour du séminaire ce soir à 8h. Puis là, il se promenait dans toute la ville, ça venait toute la journée. Il y avait 52 000 personnes à Trois-Rivières dans ce temps-là, quand j'étais petit. Fait qu'il faisait toutes les rues de la ville à une vitesse raisonnable pour que tu aies le temps d'entendre deux fois le message. Il faisait le message assez court, 20 secondes, à peu près 10 secondes. Il répétait deux fois, puis bon, les gens sortaient dans la rue. On a besoin de crier, parce qu'avant ça se faisait avec un humain
avec
qui criait.
Avec des gros parleurs en flûte,
Oui. Université, il y en a encore, ils sont gris. Deux grosses flûtes, puis un peu plus tard, ils en mettent à quatre. C'était plus puissant. Puis c'était à lampe, avec des vibrateurs pour le voltage. Mais il n'y a pas de transistor. Oublie les détails, là. C'est juste que ça m'a permis. Fait que là, deux jours, il faisait les crier, puis le soir, ces mêmes amplificateurs-là, ils servaient pour amplifier... pendant que Duplessis parlait en public dehors. Fait que là, il mettait une espèce de chose temporaire, là, un stand, là. Il y avait des pieds de micro.
Les estrades,
voilà. Il y avait des politiciens qui l'entouraient. Bon, il y avait toujours un rituel bizarre. Chaque fois qu'il parlait, il y avait toujours Monseigneur puis le curé. Le curé puis son boss. Minimum, des fois, il n'y avait plus. Parce que, puis là, dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas d'armes puis n'avaient pas le droit de voter. Hein? Fait que là, quand tu commençais un discours en public...
Il n'y avait pas d'armes?
Non. Les curés disaient que non, il n'y avait pas de droit de temps d'affaires.
Parce que les femmes
n'existaient pas.
On est au Québec, là.
On est à Québec.
Dans quelles années, là?
Entre 39 et un petit peu plus.
Et mes amis, on n'est pas loin de la burqa, là.
Pas loin certain.
Okay.
Mais quand vous dites, c'est ça. Fait que là, les haut-parleurs, c'est moi qui allais porter les microphones de M. Verrette.
À 13-14 ans, là.
Ben oui.
OK.
J'étais vieux, moi, là.
OK.
Il n'y avait rien là, il n'y avait aucun secret dans ça, les amplificateurs audio. J'avais commencé à 3-4 ans à faire des radios.
Tu vas entendre des choses dans les coulisses que personne n'entend.
Bon, mais c'est plus. Ben, ça, c'est une grosse portion de ma vie aussi, puis la partie moins drôle. En avant du stage, comme on dirait, là, il y avait Duplessis, il y avait Monseigneur, puis les curés, puis ça. Bon, mais bonjour. Bon, Monseigneur, messieurs. À cette heure, on dirait mesdames, messieurs. Mais il n'y avait pas de ça dans le temps. Là, ça arrêtait à messieurs. Bon.
Il ne
faisait même discours. Pas, mesdames. Non, ça n'existait pas. Non, la femme, elle suivait pas. C'était pas ça.
Monsieur le président, monseigneur, monseigneur Intel.
Là, tu as la moitié des femmes dans la politique, partout, mais dans ça, là, rien. Une femme n'avait pas le droit de se lever pendant qu'un homme parlait. Dans bien des places. Mais j'étais là. Mais aujourd'hui, c'est bien. Ça va faire rire bien du monde, ou ça peut en faire pleurer d'autres.
Ben oui.
Mais gars.
On connaît pourquoi. On comprend maintenant pourquoi Jeannette et les Jeannettes.
Jeannette,
Paillette et compagnie, mais oui, c'est ça.
Ça, c'est toujours c'est un phénomène. Et tu tires sur de quoi, là? Tu vas avoir de quoi, un petit gars, là, tu tires dessus. Il va lâcher à un moment donné. Fait que là, tu vas de l'autre bord. Fait que c'est Ça, c'est une loi que j'ai trouvée qui est applicable à n'importe quoi aussi. Tu veux de quoi? Tu vas exagérer en premier. Puis là, tu vas peut-être y aller quelque part, puis tu reviens.
Oui, bon, là, ça prend. Ouais. Alors.
C'est bon. Fait que là, Duplessis, pendant qu'il faisait ses discours, il y avait le Duplessis dans l'avant de tout le monde. Politesse épouvantable. Ah oui, embrassait la bague de Monseigneur.
Charbonneau est le chef.
Oui, oui, c'est dans ce temps-là.
C'était le Monseigneur Charbonneau.
Un petit peu plus tard, ça, mais moi, avant, ouais. Fait que là, ce que j'ai appris, là, c'est qu'il y avait le discours devant tout le monde, en avant. Une politesse, un rituel religieux, c'est le cas de dire. Mais en arrière du rideau, moi, vu que j'étais toujours là avec mes fils, il disait, tu vas aller loin dans ça, mon petit gars, mets ta main sur la tête. Bien sûr, je suis allé loin, j'ai passé ma vie dans ça. Il avait raison, au moins pour ça. Mais là, après, c'est que, en arrière du rideau, on ne me voyait plus. Tu sais, j'étais transparent, je me promenais, je roulais mes fils. Tu sais, ben comme oui. Je roulais mes fils, ils ne pensaient pas. Là, entre eux autres, le premier choc, ils se tutoyaient. Que c'est ça? Moi, un petit gars tout blanc, tout neutre, hein? Que c'est ça?
Devant tout le monde, il se vous voit. Et en arrière, il se tutoie.
Mais ça, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Après ça, je voyais toutes les cochonneries qui se racontaient, qui ne se racontent pas dans la famille en avant. Que c'est ça, la religion. Duplessis, c'était des maîtres, ça. Moi, qui ne sais rien, là, je suis sali par ces bonhommes-là. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Puis bon, mais ce que j'ai entendu de répéter des dizaines de fois, avec une façon un peu différente, mais le fond est le même. Tant qu'on les tient dans l'ignorance, on va les contrôler. J'ai entendu ça peut-être des milliers de fois, parce que c'était Duplessis qui contrôlait l'instruction publique. J'ai toute connaissance sur les débuts de ce qui a été, après ça, les écoles commençaient à tout marcher.
Gardons-les ignorants, on les contrôle.
Le plus longtemps possible, on va les contrôler. Une variante là, qui veut dire la même chose, peut-être 15-20 variantes, mais les deux mots-clés sont là. J'ai entendu ça, puis ils ne me voyaient pas, ils ne me voyaient plus, là, toi. J'étais le petit gars qui traîne les fils, j'étais eux-mêmes, quasiment.
Donc, t'es pas celui qui dit qu'il a entendu dire qu'on disait
j'étais
ça.
J'étais là. C'est pas, non, j'étais là, puis les années, c'est facile à suivre, puis j'étais là. Il y a des photos de moi avec Duplessis qu'on voit souvent. Quand Radio-Canada fait des reportages sur les années-là, très, très souvent, tu vois un bonhomme avec des grosses valises, puis des pitons, puis un petit gars, c'était moi, ça.
Ah, oui.
De Duplessis.
Hey, Seigneur. Hervé, il va falloir qu'on se revoie. Je trouve formidable ton témoignage, oui. Mais le mois prochain, on t'invite à revenir ici.
Ben, une tranche de 10 ans, je suis bon pour sa foi, pour faire un bloc de 10 ans.
Tant que tu vas en avoir après, tu vas être toujours vivant, fait que on prolongera ça.
Ah, ben là, je vois avec ça comme vous voulez, c'est sûr.
Oui. Ben, merci beaucoup, le BMI.
Cet entretien a été enregistré à l'Université Laval au début du mois de décembre 2014, devant public, avec M. Hervé Lapointe, qu'on retrouvera ainsi, le mois prochain, vous êtes à l'écoute de l'émission Ésotérisme expérimental qui a son complément tous les samedis soirs sur YouTube en direct au canal Orandia TV, O-R-A-N-D-I-A TV, même accompagné de lignes ouvertes. C'est un rendez-vous et à la semaine prochaine pour une autre rencontre toujours un peu étrange, insolite, en rapport avec cette démarche de l'ésotérisme dans le « connais-toi toi-même » et « tu connaîtras l'univers et les dieux ». En terminant, ici Richard Glenn qui vous souhaite d'être heureux, car autour de soi, on a tout pour être heureux. À bientôt!